Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Salut les amis.
Salut Guillaume.
Je réécoute l'émission de vendredi, c'était chouette. Hein.
Ah oui, c'était vraiment bien. Oui.
Karine Viard, elle était en belle forme.
Oui. Sauf peut-être, je dirais, à un moment donné.
Alors, on me signale en régie, Anne-Sophie Ladonne,
qu'on n'aime pas ma voix.
Ah non.
Et qu'il faut que tu dégages.
Elle était drôle, oui.
Surtout quand elle essayait pas d'être drôle, d'ailleurs.
Oui, ça, c'est un tempérament.
Parce que quand elle a essayé...
Une pièce qui s'intitule « Vera ».
Si tu viens, tu me verras.
Ouais, c'était pas terrible.
C'était nul.
Alors attends, parce que je serais toi, je la ramènerais pas quand même. Dans la foulée, t'as voulu en faire un autre.
Et Alex Vizorek recommande cette pièce. Vous en voyez beaucoup.
J'ai vu Vera.
Vous avez vu Vera.
Ouais.
C'est bon.
Qui a vu Vera?
Ouais, donc l'Académie Raymond Devos a porté plainte contre Radio France.
Clairement, ça arrive, ça m'a échappé.
Et puis il y a eu quand même mon moment préféré de l'émission.
Ah, les brèves.
Non, le moment émotion.
Ah. Un homme est mort, Arnaud Beltrame. Officier de gendarmerie.
C'est vrai que c'était beau, putain.
Ah, c'est beau.
Je suis allé.
Ah, moi j'ai pleuré. Hein.
Oh, moi j'ai un petit peu saigné les oreilles aussi.
Oui, donc c'était une bonne émission.
Oui, c'était une très bonne émission.
Ok, donc on peut préparer celle d'aujourd'hui.
Alors attends, moi j'ai encore juste une petite demande.
Par rapport.
Alors c'est surtout par rapport au fait que parce que parfois j'essaye d'en placer une et puis tu t'en fous un peu, Charlie.
Moi?
Ah oui, j'ai déjà remarqué ça aussi. Tu fais ça.
Mais je le laisse parler tout le temps.
Non, on va écouter ça.
Sujet aussi un peu connexe au thème de la pièce.
Oui.
Il y a des films dans lesquels vous avez joué. Dans quelle caisse que vous êtes parfois amené à mettre des notes?
Ouais.
On ne saura pas du coup.
Ok, je ferai attention. Parce qu'il faut dire aussi qu'après, quand je te donne la parole,
parce que
c'est jamais bien pertinent.
Donc
à force. Tu disais quoi?
Rien.
Bonjour la France Inter, bienvenue dans l'Open Space qui reste open les jours fériés. Et voici les trois sujets qui attendront la lumière en partant. La grève perlée débute ce soir à la SNCF. Avec les cheminots, on entre dans le dur du mouvement social qui globalement touche tous les services publics. Alors les Français s'organisent en prévision de demain et la CGT aussi, elle s'organise.
Il y aura des merguez, il y aura des barquettes de frites, il y aura même du ketchup.
C'est la fin des voies toutes tracées dans le monde du travail, un métier qui disparaît, un licenciement en milieu de carrière, un besoin de changement d'activité. Il est probable que nous exercions plusieurs activités au cours d'une vie. N'ayons plus peur du changement.
Moi, j'avais un vieux copain à l'ENA qui s'appelait François Lecu. Il a transformé son nom en Lefu. Ça a changé sa vie.
Cette manie de toujours remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, ça s'appelle la procrastination. Alors arrêtons de culpabiliser. Il paraît qu'elle a ses bienfaits. Et si on remettait ce sujet 3 à demain?
Alors mon truc dans la vie, c'est de me faire plaisir à moi-même. Donc je fais rien. C'est mon plaisir.
Voilà. Eh bien, lui, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, il le remet à hier. Comme
c'est
ça, il ne doit plus le faire. C'est Alex Vizorek.
Oui, mais c'est malin aussi. Hein.
Bonjour, Charlie de Valonacker. Joyeuse Pâques à tous. Et aujourd'hui,
il y a une belle équipe.
Eh oui,
j'ai été sûr.
Tombé du ciel. Ouais. Une belle équipe. À 17h20, lui, l'idée que des cloches volent dans le ciel en lâchant des œufs sur des lapins en salopette, ça lui semble extrêmement crédible. C'est son côté onirico-stupéfiant. Et on le sent dans ses chroniques. Hippolyte Girardot, bonjour.
Mais bonjour à tous. Je suis très content d'être là à Pâques et je vais vous parler d'un organe officiel en France qui était l'équivalent de la Pravda pour la Soviète suprême, un truc formidable qui s'appelle le JDD.
Ah 17h30, hier une fois de plus Jésus n'a pas ressuscité et non. C'est sans doute dû au fait qu'il n'a aucune envie de répondre aux questions de Guillaume Meurice.
C'est
bonjour,
dommage, j'en ai plein.
J'imagine.
Bonjour à tous, moi je suis allé au grand rassemblement des musulmans de France hier pour rappeler quand même que Dieu n'existe pas. Hein.
Ce que vous dites c'est absurde.
Mais oui, alors que créer le monde à partir de rien, ça ne l'est pas, je vous le rappelle.
Et enfin 17h40, celle qui hier n'avait pas complètement compris le concept, puisqu'elle a passé sa journée à faire des boissons d'avril. Et c'est beaucoup abusé. C'est Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Alex.
De quoi on va parler?
Est-ce que vous vous souvenez d'un épisode de Striptease, l'émission culte, qui s'appelait La soucoupe et le perroquet?
Bien sûr.
Eh ben, figurez-vous que c'est un livre qui parle du héros.
C'est pas vrai, la suite.
C'est pas trop bien.
Non, oui. On accueille le nôtre de héros, celui qui va disrupter avec nous jusqu'à 18h. Vous faites d'abord des tas de
petits boulots dont magasinier. Ouais. Et puis un jour, vous entamez une carrière de régisseur au cinéma qui dure 15 ans. Avant de devenir acteur, mais au départ, c'était juste pour rendre service. Et on est bien content parce qu'après, on vous a vu comme infirmier dans Hippocrate de Thomas Lilti, maître nageur dans L'effet aquatique de Solveig Anspach, Marie de Karine Viard dans Le Petit Locataire de Nadège Doiseau. Vous jouez même Jésus dans Les Premiers, Les Derniers de Bouly Lanners. Ah, et très récemment, on vous a vu aussi agriculteur. Agriculteur dans Normandie nue de Philippe Le Guay aux côtés de François Cluzet. Vous êtes donc, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Philippe Rambeau.
Bonne réponse.
C'est pas mal.
Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bienvenue Philippe Rebaud.
Merci, je suis content d'être là.
Ah bah nous aussi on est très heureux de vous accueillir.
Je vous écoute là, ça me fait un peu bizarre. Ah oui, il est possible que j'ai des blancs parce que je vous réponds pas quoi. Des fois je discute avec vous mais vous m'entendez pas. Enfin bon voilà.
Et vous nous écoutez où, dans votre salon?
Dans mon salon, enfin j'ai qu'une pièce, donc en fait je vous écoute dans ma pièce. Quand mes gosses me font pas trop.
Et nous aussi on vous suit Philippe Rebaud parce qu'on vous voit dans pas mal de films ces derniers temps et puis dans des portraits dans la presse qui fleurissent. Hein. Vous êtes l'acteur, alors souvent on dit l'acteur de second rôle, là vous en tenez un tout bon premier, dans le film Vent du Nord de Walid Matar, qui sera, qui était déjà en salle, il est sorti la semaine dernière.
Il est sorti mercredi.
C'est ça, avec Corinne Maziero, avec Kessy Mottet-Klein notamment, je vais citer tous les acteurs tout à l'heure. Il s'agit d'une délocalisation d'usine, on est entre Dunkerque et Tunis.
On est entre Boulogne-sur-Mer et Tunis.
Et Tunis. Ouais. Vous êtes licencié à Boulogne et à Tunis, on retrouve un jeune homme qui récupère votre poste. Ouais. Il fabrique des empiècements et il fait de l'emporte-pièce toute la journée.
Des semelles de godasse, je crois.
Voilà. Et votre trajet.
Non, j'ai pas vu le film.
Allez-y, il est bien.
Mais je sais qu'à un moment, je faisais des semelles de glace. Donc,
des semelles,
je m'en souviens.
Parce qu'on voit dans le fond de l'atelier.
Je posais pas trop de questions sur le film.
Et donc, vos trajectoires sont mises en parallèle. C'est-à-dire que ce film montre ce que devient votre poste une fois délocalisé à Tunis avec une autre génération, un jeune qui démarre dans la vie et qui récupère cela. Est-ce qu'on peut dire, Philippe Rebaud, que ce film Vent du Nord, c'est déjà un résumé de la mondialisation, parce qu'il embrasse plein d'aspects de cela?
C'est tout à fait un résumé de la mondialisation, oui. Moi, je dirais même qu'au lieu d'être deux parcours en parallèle, on est le même mec, en fait. Quand on est exploité partout. Voilà, enfin, les exploitants sont tous les mêmes, et les exploités, voilà, enfin, moi, j'ai l'impression que, voilà, ça parle de ça.
Mmh. C'est un peu votre double à Tunis.
Il a beau avoir 25 piges et être tunisien, j'en ai 53 et je suis à Boulogne-sur-Mer, mais en fait, on est les mêmes gars, on l'a dans l'os. Voilà.
Et donc, vous êtes une autre génération, vous êtes marié, vous avez un enfant qui est en passe de s'engager dans l'armée.
C'est pas ce qui me fait le plus plaisir, mais...
Le jeune à Tunis, il démarre et il tombe amoureux à l'usine, et c'est ce qui le fait tenir, finalement, dans l'usine. Tiens, est-ce que vous recommanderiez de projeter ce film dans les écoles de commerce ou à l'ENA pour qu'ils le voient?
Ouais, j'ai l'impression. Oui, je pourrais le recommander à peu près partout, mais oui, dans les écoles de commerce et tout ça, mais je suis pas sûr que ça les intéresse vraiment, en fait. Ouais. Une fois qu'on est inscrit, j'ai pas l'impression qu'on a de la subversion dans le sang.
Alors enfin, dans ce film,
c'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup de films comme ça. Moi, on m'avait fait voir Violence des échanges en milieu tempéré, et ça m'avait bien donné envie de m'enfuir. Merci au réalisateur et à Jérémy Régnier.
Pardon. Du coup, ça a un impact. Pardon, je retire.
Il aurait pu diriger le monde, et là, il dirige les brèves.
Votre personnage, Philippe Rebaud.
Oui, j'ai un poste de directeur. C'est tout ce que j'ai.
Votre personnage, Philippe Rebaud, et donc il se fait licencier de cette usine. Et lui, il a quand même un loisir qui est de pêcher. Vous êtes à Boulogne, vous pêchez, et vous essayez d'en faire une activité. Et là aussi, il y a tout un aspect de la façon dont le système fonctionne aujourd'hui, où vous essayez de faire ça dans les règles. Vous allez notamment à une réunion pour auto-entrepreneur.
Pour auto-entrepreneur, ouais.
Donc le film s'inscrit vraiment dans
la réalité de ça. Alors, c'est pas qu'un loisir, c'est une passion pour lui. Enfin, c'est sa vie, en fait, c'est sa vraie vie au gars. Donc, il essaye tout d'un coup de la rendre un peu plus payante, ou je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu plus... 2018,
bankable, cash
2017,
flow.
Quoi. Mais voilà, oui, on lui oppose son âge, on lui oppose des trucs complètement cons, enfin, qui font partie de notre société, c'est-à-dire, en gros, toi, tu peux pas pêcher 3 bars, mais en fait, il y a des mecs qui peuvent ramener 25 tonnes de bars en 2 minutes et demie. Donc voilà, mais... En gros, c'est pas pour dévoiler le truc, mais il en a rien à foutre. J'ai bon espoir que dans la saison 2, enfin dans l'épisode 2, il aille quand même pêcher et qu'il s'en foute.
Le film s'appelle Vent du Nord. C'est donc avec Philippe Rebaud, notre invité. Il y a aussi Corinne Maziro qui joue votre femme, Kessie Motéclin. Il y a Mohamed Amin Hamzaoui, Abir Benani par exemple, et Khaled Brahmi. Et je vous le recommande chaudement, ce film Vent du Nord, sur les écrans actuellement, puisqu'il est sorti la semaine dernière. Et on va à l'occasion d'en reparler avec l'actualité.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Clandestino, Manu Chao, sur France Inter, par Jupiter. Oh, on est content, on est avec Philippe Rebaud, qui est avec
content,
nous.
Ouais. Qui est content aussi.
Oh, chic, avec vous, tout le monde est content. Et ceux qui sont moins contents à 17h20, c'est au péage de Bourneville, oui, sur la 13. Probable. On pense très très fort à vous, car comme tous les trains sont complets, la grève commence ce soir, et ben, vous êtes bien dans la mouise, mais
vous
on vous accompagne.
Vous êtes bien au courant de Savoie.
Oui, il ne fallait pas pouvoir rentrer.
Vous voulez savoir qui est autour de la table?
Autour de la table.
Eh bien, Hippolyte Girardot, Guillaume Meurice et Juliette. Arnaud par ordre d'apparition.
C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde
se reconnaît tous. Oui,
ouais. Le vent du Nord nous amène les informations. Oh.
Moi, je suis socialiste et je l'assume.
Le journal de presque 17h17.
En même temps, d'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
Et on commence par les titres.
La grève à la SNCF, préparez-vous à un mardi noir.
Oui, Marine Le Pen a donc demandé le retour à la frontière immédiate de ce mardi.
Costa Rica, le rocker de centre-gauche Carlos Alvarado est élu président, lui qui n'a pas hésité à jouer de la guitare durant la campagne électorale.
Pour vous donner une idée, c'est un petit peu comme si Francis Lalanne devenait président. Je ne sais pas si on mesure le vertige.
Pas bien, non, pas bien. Non. Des brèves ?
Oui, des brèves. J'ai fait la chasse aux brèves tout le week-end.
C'est les cloches qui vous les amènent.
Ça vous a pas échappé. Commençons par rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'autisme.
Oui, une journée mondiale qui tombe chaque année le 2 avril.
Oui, et pour les autistes qui nous écoutent, rappelons que le 2 avril, c'est le 92e ou le 93e jour de l'année, qu'on soit bisextile ou pas. Alors, aujourd'hui, débute la 14e semaine de l'année. Se sont déjà écoulées depuis le 1er janvier 2200 heures, 17 minutes et 132 017 secondes, soit 7 921 020 secondes.
Merci.
Maintenant, 7 000 021, puisque je...
Parce que ça va être
écoulé. D'accord,
merci.
Salut, quoi. On les salue,
on
quoi.
On passe à l'info suivante.
Oui, hier, François Ruffin était sur BFM TVI.
Très sincèrement, j'ai décidé de démissionner, quoi.
Hein? Ah, de démissionner.
Ouais, j'ai décidé d'arrêter.
De démissionner.
Oui, voilà, au mois de juin, je passe à autre chose, quoi.
On sent même une certaine émotion, hein, bah, quand vous êtes en train de me le dire. Je vois votre regard que les téléspectateurs ne voient pas forcément, mais...
Vous avez parlé?
Vous jetez l'éponge, vous arrêtez.
Poisson d'avril.
Ah.
Le regard étant le même celui de Juliette Ardoux pendant qu'elle écoutait le son. Et on salue Apolline de Malherbe qui l'a trouvé très émue.
Ah oui, ça fait tout de suite. C'est vrai que votre invité intéressant.
Oui, ce matin, c'était sur France Inter. Gabriel Attal, porte-parole d'En Marche, a parlé de l'avenir.
l'avenir du service public audiovisuel?
Là, je vous rappelle qu'on est en train de nommer un nouveau président pour Radio France. Donc, on n'est pas du tout.
On est ou le CSA?
Le CSA, enfin, c'est voilà, le CSA.
La même chose.
Oui, vous avez compris.
Oui, bah oui.
Bien sûr, ouais.
Les jeunes, ça parle trop vite.
Ne casse pas, Gabi, on a compris, ouais.
On comprend surtout mieux pourquoi nous avons été écartés.
Ouais,
voilà. International. Oui. Donald Trump a choisi avril 2018 comme le mois national de la prévention et de la sensibilisation sur les agressions sexuelles.
Voilà, ça durera qu'un mois. Hein. En mai, fais ce qu'il te plaît, les Américains pourront rattraper les Américaines par le poussi.
États-Unis, toujours, oui. Le musée du selfie a été inauguré près de Los Angeles.
Et oui, pour Nabila, c'est enfin une chance d'entrer dans un musée.
Corée du Nord, oui. Kim Jong-un est allé applaudir les chanteuses sud-coréennes venues à Pyongyang pour deux concerts inédits.
Et oui, Kim Jong-un, il est en train de devenir tellement sympa que bientôt il va remplacer Ronald McDonald pour les anniversaires au McDo. C'est...
Économie.
Oui, hier soir, dans Au Tableau sur C8, Xavier Niel était invité et les enfants ont voulu le faire parler de son beau-père, un certain Bernard. Arnaud.
C'est qui votre beau-père ?
Mon beau-père, c'est le papa de ma maman.
Non, mais son nom.
Ah, il s'appelle Bernard, excusez-moi. Ben, si un beau-père, c'est le papa d'une maman. C'est le papa de ma maman, c'est le papa de ma compagne. Alors, il y a un truc très important, quand on dit un truc comme ça, il faut aller voir un monsieur qui s'appelle un psychiatre. Et là, il vous regarde des centaines d'heures en disant il a un problème.
Allô, Freud ?
C'est bien, voilà. Technologie, la station spatiale chinoise s'est désintégrée au-dessus du Pacifique.
Oui, en même temps, fallait se douter un petit peu, parce que les Chinois, je rappelle que c'est ceux qui font des grippins qui se cassent au bout de 3 semaines, alors des stations spatiales.
Effectivement, des brèves.
Ah, j'en ai de bonnes. Hein. Metz, il note l'hôtel de police sur TripAdvisor après avoir passé une nuit en garde à vue. C'est drôle, mais Nicolas Sarkozy ne pourra pas le faire parce que lui, il est rentré chez lui la nuit entre les deux jours de garde à vue.
Et là, c'est votre préféré du week-end et ça se passe en Bretagne,
en
Alex.
Bretagne, c'est ma préférée du week-end. Côte d'Armor, ivre, virgule, il va dire aux gendarmes qu'il roulait ivre et sans permis. Et là, on se met à rêver que Patrick Balkany soit breton.
Merci Alex,
il est tout un peuple, hein.
17h24 à Boulogne-sur-Mer où se déroule en partie le film Vent du Nord que vient nous présenter Philippe Rebaud qui est au cinéma actuellement. Voici le premier sujet avec vous Philippe, c'est la France qui s'organise pour se passer des trains à partir de ce soir 19h. Comme quoi il existe encore des grèves des transports qui ne passent pas inaperçues, n'en déplaise à Nicolas Sarkozy. Ouverture du rail à la concurrence et puis ces cheminots qui veulent conserver leur statut, sacrée bande de privilégiés, hein. Surtout quand on sait comment ça apparaît un privilège et puis comment ça se garde, parfois ça tient un truc tout bête.
La prime à vous revenir sera donc
de 2347 nouveaux francs.
30.
Plus la surprime VG42.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
La VG42 a été instituée sous le régime de Vichy pour faciliter les déplacements des fonctionnaires entre Paris et le nouveau siège du gouvernement. Selon l'administration et la SNCF, les voyages gratuits mensuels Paris-Vichy ne se justifient plus.
Mais c'est un acquis social, la VG42.
Vichy, ce n'était pas la France.
La fête des mères, c'est Vichy. La médecine scolaire, c'est Vichy. Et personne ne pense à les supprimer. C'est vraiment deux poids, deux mesures. Ce sont toujours les petits qui trinquent.
On ne va pas faire l'apologie de Vichy.
Oui, mais il ne faut pas jeter Vichy avec l'autre Vichy.
Si le gouvernement de Vichy était installé à Vichy, c'est qu'il y avait une bonne raison d'aller à Vichy. Qui n'a certainement pas changé depuis.
C'est un extrait de la série Au service de la France, créée par Jean-François Alain. Alors, Philippe Rebaud, est-ce que vous soutenez les cheminots ou bien vous êtes plutôt de ceux qui pensent qu'il faut sortir de la gréviculture, comme nous l'a dit Gabriel Attal ce matin de la République en Marche.
Le jeune.
Alors,
le jeune qui n'a jamais rien foutu de sa vie, donc celui-là, il a envie. Enfin, bon, je le comprends, ça doit être fatigant. Moi, par principe, je soutiens les grèves. En fait, j'ai chopé ça à Robert Guédiguian, que j'ai entendu en interview l'autre jour. Il a dit par principe, je soutiens les grèves. Donc, je ne sais pas toujours pourquoi. Par exemple, Marie a une grève de la cantine de mes gosses.
Ouais.
Bah, je soutiens la grève. Mais c'est pas la première et je sais pas pourquoi ils font grève. Mais voilà.
C'est-à-dire
mais je
que
suis
souvent, il y a une raison valable.
Mais, oui, de toute façon, il y a une raison valable. Les gens s'énervent pas pour rien. Voilà, c'est pas de la provoque. Hein.
Et ça fait plaisir à personne de faire grève.
Et ça fait plaisir à personne. Voilà, oui, c'est ça. Je cherchais un truc intelligent à dire.
Mais non, mais c'était bien.
Et là, non, mais je parle avant de penser. Du coup, mais je voulais arriver là.
Et sur cette grève, sur cette grève-ci, là, c'est les cheminots. Donc il y a quelque chose de symbolique. C'est toujours un peu le fer de lance des mouvements sociaux. Et là, cette fois-ci, il y a vraiment une grève qui va obliger les Français à s'organiser autrement.
Bah on va s'organiser autrement. Non, non, mais c'est pas pour nous que c'est le plus chiant.
Vous n'êtes pas en tournée, vous.
Comment ?
Vous n'êtes pas en tournée en ce moment ?
Non, je suis plutôt coincé à la baraque avec les gosses. Donc
Guillaume et moi, oui, on va s'organiser un petit peu.
C'est vrai.
On s'organise.
Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ?
Bien sûr. Mais ça veut dire qu'il y a toujours un levier possible et un tempo qui n'est pas toujours dicté par le gouvernement, mais que parfois la rue.
C'est cool de râler. Enfin, moi, je trouve que c'est bien. Enfin, faut le dire régulièrement dans un gouvernement comme le nôtre. Faut dire de temps en temps, j'en ai marre. Donc voilà.
Hashtag je soutiens les cheminots.
Hashtag je soutiens les cheminots.
Dans le film Vent du Nord de Walid Matar qui est en salle actuellement, votre personnage
Vent du Nord. Hashtag je soutiens.
Votre personnage il se fait licencier de l'usine de fabrication de chaussures et lui, il refuse de lutter. Lui, il y a des camarades qui disent on va continuer à occuper l'usine, etc. Puis vous êtes dans le bureau du DRH, on vous dit bah voilà comme indemnité il y a ça, vous faites ok merci bonsoir.
Ouais,
Pourquoi votre personnage fait ça lui ?
Dans l'idée c'est moche parce qu'on se dit putain il est pas si militant, il soutient pas tellement ces gars et tout ça, mais finalement philosophiquement il a peut-être raison, en fait faut arrêter les combats douteux, faut peut-être contourner. Moi je pense qu'il contourne et qu'il va faire autre chose, mais que là s'opposer frontalement aux gars, on sait qu'ils ont gagné, moi depuis que j'existe ils gagnent tout le temps ces gars, donc peut-être lutter contre eux c'est pas la solution, faut peut-être passer par derrière. Voilà, moi je voilà.
Et c'est la différence quand vous bloquez l'usine, il n'y a pas forcément de conséquences pour les Français en général, quand c'est les cheminots qui bloquent là, le levier est... parfois les leviers sont possibles et d'autres fois pas.
Oui, c'est ça. Tant mieux pour eux. S'ils ont un levier comme ça et que ça leur permet de faire exister leur cause, tant mieux. Mais moi, dans le cas de mon personnage, oui, c'est vrai que l'usine de se mettre de chaussures, tout le monde s'en fout.
Philippe Robeau, c'est un acte militant.
Je vais pas vous plomber.
Non, non, mais non, vous plombez rien du tout. Au contraire, quand vous choisissez vos rôles, quand vous choisissez vos rôles, il y a un acte militant où dans tous les portraits on dit oui, il fait partie de cette catégorie d'acteurs qui est crédible quand il joue un ouvrier, un agriculteur, etc. Alors, est-ce que il y a de ça, il y a de l'acte militant ? Comment ça se fait ?
Non, pas du tout, parce que je ne choisis pas. En fait, j'ai de la chance qu'on me propose ces rôles-là. Je sais pas comment ça se passe, mais voilà, je les choisis pas particulièrement. En revanche, je serais content. Ça doit vouloir dire que je suis au bon endroit, ouais. Si, enfin, je suis un militant sans le savoir.
Et bien... vous iriez jouer un méchant dans James Bond ?
Ouais. Pour des raisons financières, hein. Ça, on est d'accord. Aussi pour l'élégance, puisque je veux bien porter des smokings de temps en temps, des trucs comme ça, parce que là, je suis souvent fringué comme un cul, moi, dans les films.
Les gens qui nous écoutent, vous êtes très élégant. Bien. Cravate en tricot.
Retourner mon image, ouais.
Et vous votez Dupont-Aignan, donc il n'y a pas de raison.
On vous ostracise.
C'est ça, il n'y a pas de raison. J'ai l'impression que je suis neutre. Dupont-Aignan est ainsi comme les autres. C'est pas parce que, enfin, moi, j'aime bien les parcs à rouge, contrairement à d'autres gens. Je ne sais pas ce que vous reprochez à ça.
Philippe Robeau avec nous. Et tiens, on rappelle, si on sent que beaucoup de Français commencent à râler avec la grève des trains, on verra. Sachez qu'il y a des caisses de grève, il y a des espèces de crowdfunding comme ça pour alimenter les caisses de grève pour les cheminots. Oh, je dis ça, hop, je l'ai dit. Oh, voilà. Je savais pas qu'on était en direct. Oh,
ça
oblige
personne, on n'est pas obligé de. Non, on est d'accord.
À côté de vous, Philippe Robeau, il y a un camarade, un coreligionnaire, comme on dit.
Bah oui, Hippolyte Girardeau. Un camarade.
Un maître. Un maître.
Qui a quand même fait, qui a travaillé avec le gars là.
Ouais.
Hein ?
Je lui ai fait des sandwichs à ce gars-là, hein. Faut le savoir.
Il m'a fait des sandwichs.
Quand vous étiez régisseur cinéma.
J'étais régisseur. Et on s'est fait une belle petite scène ensemble.
Ouais.
Un soir, dans la nuit.
Dans la nuit.
Hein, autour d'une station-service. Enfin, bref, passons les histoires personnelles. Bon, les gars. Est-ce que vous avez vu la couverture du JDD ?
Oui ! Magnifique, splendide.
Alors, gros plan, ils ont mis Martinez. Je me suis dit, merde, quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Le journal le plus servile de la Macronie, l'organe de propagande du CAC 40, encore plus obéissant que ne l'était la Pravda soviétique au temps des grandes heures du stalinisme, l'hebdomadaire auto-bronzant de la nomenclature actuelle, a mis Martinez, secrétaire général de la CGT, en couverture. Mais allons quoi? Eh oh, chez Lagardère du calme, ça délire de trop, quoi? On s'est rendu compte que la privatisation forcée d'un service public était une erreur. On s'est enfin aperçu que la dette de la SNCF pouvait être résorbée par une taxe légitime sur les péages autoroutiers détenus par de grandes compagnies privées. Où on a décidé en haut lieu que le statut de cheminot méritait au moins autant d'égards que celui de député. On s'est dit que ce Martinez était au moins aussi saillant en couverture que la première dame sans statut, certes, mais dont on peaufine, tant que faire se peut encore, la statue à coups de papier glacé. Je me suis dit, mais non, mais Hippolyte, bon, mais arrête d'halluciner, mec, c'est le 1er avril. C'est une grosse blague, c'est une grosse blague du JDD. Ils se sont dit, tiens, mais qu'est-ce qu'on va se marrer? On va mettre un moustachu en couverture. On va se la jouer un peu Revival 70, tu vois, c'est l'époque des commémorations, tout ça, ça va être grosse blague, tout le monde rigole au JDD, c'est formidable. On dira pas qu'on sait pas se marrer chez les milliardaires. Écoutez, ouais, les gars, on met Martinez en couverture? On met l'Astérix qui résiste à l'Empire macronien en gros plan en couleur? Ouais, vas-y, trop fort, le poisson d'avril, génial! Et puis bim, je lis le titre, je lis l'accroche, cet homme va-t-il bloquer la France? Ah, gros coup de claque au 1er avril. En fait, je me rends compte que ça rigole pas du tout. Je comprends que ça n'en est pas un, de poisson d'avril. Le JDD le met là pour faire peur, parce que c'est le challenger face au poids plume nouvellement arrivé sur le ring de la lutte sociale et politique. La manœuvre est grossière, certes, mais très efficace, dans un pays où la plupart des gens sont scandalisés par l'espionnage qu'ils subissent par Facebook et les autres, mais au jamais, au grand jamais, ils décideraient de s'en passer. Donc, dans les semaines qui viennent, camarades, on va assister à un match entre celui qu'on va nommer Pitbull Martinez très rapidement contre Petit Prince du Touquet. On va faire de Pitbull un tueur, un type qui cogne d'abord et discute ensuite, et de Petit Prince une victime qui veut sauver la France de tant de haine. On va sûrement voir Gattaz qui va monter au créneau en traitant la CGT de terroriste. C'était en 2016 et non, ce n'était pas un poisson d'avril. D'ailleurs, cette tentative, cette attaque sournoise mais assez balèze a commencé avec Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui a décidé que la région prendra en charge les covoiturages via le site Navigo. Donc j'explique. Ceux qui se serviront de ça seront donc les alliés des casseurs de grève. Et non, ce n'est pas un poisson d'avril. Et hier soir, ça a continué avec le PDG de la SNCF, M. Guillaume Pépi, qui a dit « cette grève est complètement décalée ». Et je ne sais pas, dit-il, je ne sais pas si elle est supportable par les Français. Parce que lui, évidemment, il sait très bien ce qui est supportable ou pas avec son salaire à 450 000 boules par an. C'est le maximum, on peut faire plus. Bref, non, c'est pas un poisson d'avril. Alors je regarde à nouveau la photo du JDD, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est extraordinaire. Un éclairage à l'ancienne, c'est-à-dire plein feu devant, mais avec un contre-jour derrière pour bien dessiner les plis du visage, viril, décidé. Séducteur, mais puissant. L'œil est noir, perçant. La moustache est bien peignée, et drue, et dissimule sûrement une bouche pincée, mais prête à mordre. Ouh oui, c'est un homme qui en a, à qui faut pas la faire. Me marche pas sur les pompes, et je vais pas t'écraser l'éponge qui te sert de minois, petit gars. Bernard Blier, c'est son cousin. Michel Audiard, son dialoguiste. Et Jean Gabin, son grand-père. C'est le tonton flingueur, le vrai, celui qui tire. Et les jeunes godelureaux en face, à un terrasse, planqué dans les jupes de sa maman. Et ça, c'est pas un poisson d'avril.
Parce que j'aime autant vous dire que pour moi, monsieur Eric, avec ses costards tissés en Écosse à Roubaix, ses boutons de manchette en simili et ses pompes à l'italienne fabriquées à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel.
Hippolyte Girardot, merci beaucoup. Et Philippe Martinez qui sera... Philippe Martinez qui sera l'invité de la matinale demain matin.
Eh oui. Je t'écouterai.
Non, mais ça va nous changer ce matin.
Gabi.
Merci Hippolyte, c'est Philippe Robot qui est avec nous jusqu'à 18h. Le film Vent du Nord de Walid Matar, qui est tunisien et qui vit dans les Hauts-de-France. Donc tout est hashtag cohérence dans ce film. Il est sur les écrans depuis la semaine dernière et je vous le recommande chaudement.
Les gens s'en foutent. Les gens sont sans histoire, ils s'embrassent dans le noir. Les gens s'endorment sous les gens se disent tout. Et puis plus rien du tout, ils dorment un peu moins tard. Ne dorment plus du tout, mais toi, 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 tu n'es pas comme eux, toi, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier. Jamais oublié, toi, tu n'es pas comme eux, toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Les gens sont fous, ils regardent les étoiles et puis tirent en l'air à coups de revolver. Les gens se conduisent mal, ils achètent le journal. Que le monde va mal, que tout est immoral. Et toi, toi, tu n'es pas comme eux. Toi, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Tu n'es pas comme eux. Toi, toi, tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. gens sont fous, les gens sont sans histoire, les gens sont dérisoires et comptent plus que tout. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. Je t'ai embrassé sous l'olivier, jamais oublié. Toi, tu n'es pas comme eux. Toi, 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 tu n'es pas comme eux. C'est sous l'olivier, jamais oublié.
Les gens par Raphaël sur France Inter, par Jupiter. Guillaume Meurice.
Oui, c'est moi.
Oui,
qu'est-ce
oui.
qu'il faut faire?
Bah, montrer ce que vous savez faire à tous les auditeurs qui sont bloqués en voiture. Tiens, on a une pensée car il est 17h37 sur l'échangeur d'Orange à la jonction de la 7 et la 9. Ils sont pas bien. Heureusement, il y a Philippe Rebaud avec nous. Il y a Hippolyte Girardot. Il y a Juliette. Il y a Alex.
Oui, je suis là.
Et votre talent, vrai, il est
là. Bah, grosse actu aujourd'hui, hein, puisqu'on est lundi de Pâques. Et moi, vous le savez, j'adore les religions. Hein, je vous rappelle que j'ai cru longtemps que François Hollande allait faire deux mandats. Donc, dès qu'il s'agit de croire à des conneries, c'est vrai que je suis pas le dernier. Et la deuxième actu, ce sont les grandes grèves qui arrivent et il y a un seul espoir pour détourner l'attention, on le sait, c'est l'islam. Hein, on connaît la technique. Vous voulez des droits? Attention aux musulmans! Oui, même Philippe, il a flippé. Ouais, il a eu peur. J'ai vu dans votre regard. C'est une stratégie qu'on appelle la valsite, hein, du théoricien Abouk du même nom. Et c'était ce week-end le grand rassemblement des musulmans de France au Bourget, organisé par une association qui s'appelle l'UOIF, qui représente à peu près autant les musulmans que le CRIF représente les juifs, ou que Elisabeth Lévy représente les femmes allergiques à l'alcool. Hein, qu'elle aura une association où Juliette serait trésorière.
Merde.
Mais bon, vous-même. Mais bon, comme on se fait régulièrement traiter ici d'islamo-gauchiste, je voulais voir à quoi ça ressemblait. Alors j'y suis allé, il y avait de tout, c'est vrai, il y a des stands humanitaires, il y avait des concours d'impro de théâtre plutôt chouettes, mais il y avait aussi du commerce, avec notamment des nounours pour les enfants.
C'est un nounours multimédia, interactif, où on peut appuyer sur les mains et le ventre, et il parle et fait des récitations de versets pour que les enfants apprennent la religion musulmane.
Donc là, c'est dès quel âge?
C'est dès 5 ans, 4 ans.
Voilà, petite pensée à Florian Philippot qui vient de s'étouffer avec son couscous. Donc dès 4 ans, la peluche qui te récite le Coran. Hein. Ça, faut vraiment, vraiment être croyant. Hein. Moi, mes parents, ils sont écolos. J'ai jamais eu de peluche avec des discours de Dominique Voynet. Et je veux dire heureusement, parce que sinon, aujourd'hui, je roulerais en 4x4 au charbon. Je m'habillerais en peau de panda. Alors, cette peluche, est-ce qu'elle intéresse cette dame?
Bah non, parce que déjà en islam, on n'a pas le droit d'apparaître les yeux.
Ah.
Ouais, donc normalement, il y a une poupée là, qui n'a pas d'œil. Je sais pas si vous avez vu dans d'autres stands.
Ah non, j'ai pas vu.
Un doudou avec sans yeux.
Ah oui, un doudou sans yeux, effectivement, il y en avait. Ah, c'est pas flippant du tout, quoi. Bob l'éponge énucléée, c'est sympa. Bonne nuit, petit musulman. Mais bon, il y a d'autres choses pour éduquer les enfants à la parole du prophète. Par exemple, des bandes dessinées. Mais alors, le problème, bah, comment on représente le prophète, quoi?
Le dessiner serait donner un visage qui ne lui ressemble pas, donc on ne dessine pas en fait.
Est-ce que c'est pas juste parce qu'il n'est pas très beau?
Apparemment, il était très beau.
Ah bah alors?
Il était très beau, mais voilà.
Ah, peut-être qu'il est pudique.
Il était très pudique aussi.
Voilà, ça doit être ça alors. Ouais, ça doit être ça parce que moi, si j'étais beau, ça m'emmerderait hein, qu'on m'affiche partout. Mais comme là, on me compare plus à Richard qu'à Gir, j'ai pas ce complexe. Hein. Mais si je suis pas au top, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas bien lu les conseils de l'islam, par exemple.
Nous, on a toute une série de pratiques hygiéniques, par exemple, se raser les aisselles, se couper les ongles, se raser le pubis, etc. Mais vraiment, pour ces questions d'hygiène, en fait.
Ça veut dire que Dieu, il n'a pas créé un homme parfait, alors?
Dieu nous a créé parfait dans notre fonctionnalité, l'œil.
Ah.
Quand on analyse l'œil, les
autres... Dans l'œil, mais pas dans les poils.
Oui.
Voilà, oui, c'est vrai. L'œil, c'est pas mal foutu, mais sinon le reste, c'est bâclé. Hein. Il a foutu trop de poils, pas assez de cheveux, et je parle pas précisément d'Hippolyte. Hein. Non, je parle vraiment des hommes en général. Et Dieu, il a créé les animaux aussi. Et dans l'islam, on peut les bouffer, ça c'est bien, mais il faut les tuer selon des lois qui correspondent à quoi?
Qui correspondent à la règle islamique. Voilà, à savoir que l'animal soit bien traité, qu'il soit en bonne santé.
Que l'animal soit bien traité, on est sûr de ça?
Dans le principe islamique, la bête ne doit pas souffrir.
Ah bah oui, mais comment faire alors si vous l'égorgez?
La souffrance n'est pas ressentie au sens de maltraitance animale.
Quand il se vide de son sang, il ne souffre pas.
À moins d'aller interviewer un animal, soyons assez pragmatiques.
Oui, c'est vrai. Tant que j'ai pas interrogé une chèvre, restons s'il vous plaît pragmatiques. Ceci dit, je vais régulièrement à l'Assemblée, donc j'ai quand même une petite expérience dans les interviews de chèvres. Mais bon, c'est vrai que les députés, on les bouffe pas, hein. On les engraisse pour ensuite faire des sénateurs. Autre particularité du salon des musulmans, un stand free Tariq Ramadan, énorme, en plein milieu, on peut pas le louper. Voilà, des soutiens de Tariq Ramadan, ouais, suite aux accusations portées contre lui, qui le rapprocherait quand même plus de Guy Georges que de Sœur Emmanuel. Qu'en pensent ses soutiens?
Je suis sûr que la justice, elle va prouver qu'il est innocent.
Ah, donc, bah comment vous pouvez être sûr de ça?
Bah, avec le travail de la justice. Moi, j'ai, c'est, D'après ce que je connais de lui, je pense que la justice va prouver qu'elle est innocente.
Ouais, j'espère que c'est pas son avocat quand même, parce qu'il serait bien dans la merde, là, notre ami Rabadan. Hein, il ressemble davantage, on le sait, à un mélange de prêcheur et de tartuffe. On pourrait dire tariktuf. Voilà, on pourrait l'appeler, je propose qu'on l'appelle comme ça. Et il est habitué aux controverses, Tariq Ramadan, notamment quand il avait dit qu'il voulait un moratoire sur la lapidation. Explication toujours avec ses soutiens.
On arrête immédiatement les châtiments corporels. Et mais pour ça, il faut que ce soit basé sur des éléments théologiques de la même façon que l'appel.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que, quels que soient les éléments théologiques, balancer des pierres sur un être humain, il ne faut pas le faire?
C'est dans la Bible, c'est dans le Talmud, etc. C'est quelque chose qui fait partie de toute...
Pourquoi il ne dit pas « je souhaite l'interdiction de ça »
Vous vous dites « il faut juste interdire ». Demain, moi, j'ai envie d'interdire, par exemple, les gens de se teindre les cheveux en blond. Parce que j'aime pas.
La comparaison de lapidation, t'as les cheveux en blond, je suis pas sûr qu'elle tienne.
Parce que je fais un raisonnement. Alors, vous savez peut-être pas ce que c'est un raisonnement par l'absurde.
Si. Celui-là, il est quand même bien absurde. Hein. Voilà, comme comparaison, c'est absurde. Absurde comme quand la religion devient politique et qu'elle se mêle des affaires publiques. Quand elle assassine des Palestiniens, comme on l'a vu à Gaza ce week-end. Quand elle devient la justification des divisions de l'espèce humaine. Alors, pour les grandes grèves, ce serait bien de penser plutôt à ce qui rassemble et donc que chacun range sa religion bien profond dans son culte.
Oh, ce lundi de Pâques! Oubliez Torbi!
Qui ne regarderait pas la vidéo que je n'ai pas ri hein, pendant cette journée. Alors, à aucun moment. Moi, j'ai trouvé ça assez consternant, même de manière générale.
D'ailleurs, vous êtes parti au
début. Oui, j'ai même pas écouté.
L'acteur Philippe Rebaud est en notre compagnie, que vous pouvez voir au cinéma en ce moment dans Vent du Nord de Walid Matar. On aborde ce deuxième sujet avec vous. Qui peut prétendre aujourd'hui suivre une carrière toute tracée? Il y a bien sûr les licenciements, les métiers qui disparaissent et obligent à une reconversion, mais même les salariés en CDI peuvent traverser une crise existentielle et vouloir changer de carrière. Alors ils provoquent une rupture conventionnelle pour changer de métier. Une formation reconnue comme organisme d'État permet d'ailleurs d'accompagner ces changements. Elle s'appelle Switch. Parce que il paraît, c'est dans le nouveau monde où on nous dit qu'on est à l'ère du switch. C'est le changement, quoi.
Dans cette ville où tout est triste, je suis un escargot sinistre. Je me recroqueville et manquiste, je m'ennuie. Je suis coiffeur, secrétaire, mécanicien, bibliothécaire. J'habite la banlieue ouvrière et je m'ennuie. Je m'ennuie. Je voudrais faire autre chose de ma vie. De ma vie, je m'ennuie. Je voudrais savoir comment sortir d'ici.
Nino Ferrer qui chante « Ricomplet ». C'est d'ailleurs la chanson d'ouverture du film « Les Babacool ». Et c'est une enquête parue dans Le Monde ce week-end qui explique que même quand on est en CDI, il y a pas mal de changements de carrière, de ruptures de contrat, de faire des métiers un peu plus en accord avec soi-même. Cet article parle notamment de Switch, c'est pas une blague, un organisme qui accompagne les changements de carrière et qui est reconnu comme formation de l'État. Vous, quand vous étiez régisseur au cinéma, Philippe Rebaud, vous aviez entre 30 et 45 ans. Vous pensiez que vous alliez faire ce métier toute votre vie ?
Ou switcher ?
Comme je venais déjà de switcher, enfin j'ai passé une vie à switcher moi, et du coup non, je pensais à rien de particulier. Je pensais pas que j'allais faire ça toute ma vie, mais j'étais bien.
Vous voilà. Étiez prêt à changer.
S'il avait fallu switcher, j'aurais switché. Ouais. Enfin, la preuve, j'ai switché. Ouais.
Vous êtes un switcher quand même.
Je suis un sacré switcher. Ouais, j'ai l'impression. C'est vrai, je suis un avant-gardiste dans ce truc-là. En fait, j'en ai rien à foutre du boulot. Moi, je peux switcher n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Voilà.
Alors, il y a une forme de. C'est pas toujours très confortable de faire ça. On peut avoir peur du lendemain, etc.
Moins inconfortable que de se faire chier dans le même boulot pendant des années, des heures et des... Voilà, c'est un peu plus fragile, mais c'est moins... Enfin, le simple fait qu'il y ait des possibles rend le truc plus marrant.
Et si vous deviez vous reconvertir aujourd'hui, si vous deviez quitter le milieu du cinéma et faire un tout autre travail?
Je ferais neurochirurgien. donc ça voudrait dire que j'entame des études maintenant. Ça voudrait que ma première opération, a priori, je la fais, j'ai 75 ans. Je ne suis pas sûr que la personne que j'opère soit très heureuse quand je m'occupe d'elle. Mais c'est mon objectif. Je le dis franchement, je me remets aux maths. Enfin là, voilà, c'est sérieux. Je le dis aussi pour mon père qui m'écoute. Papa, je vais reprendre mes études de médecine.
Très bien, écoutez, on a bien noté. Philippe Rebaud.
Je vous souhaite de ne pas être la première personne que j'opère.
C'est aussi un tournant.
Mais ça me fascine. Hein.
C'est aussi un tournant dans le film Vent du Nord où votre personnage.
Le moment où il devient neurochirurgien.
ça paraît dingue.
Il se fait virer de l'usine de fabrication de chaussures et puis il devient pêcheur. Alors il essaye de devenir pêcheur.
Non, mais il est déjà pêcheur.
En loisir, en amateur.
Ouais. Il essaie de devenir pro. Bon, bah, on lui oppose, mais il n'empêche qu'il sait pêcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça où je dis il y a une espèce d'espoir. C'est que le mec, de toute façon, pêcher, il sait le faire. Prendre un bateau, il sait le faire. Repérer où sont les macros, il sait le faire. Donc, après, si ça rentre pas dans les cadres, bah, il continuera de le faire.
Hein,
qu'il en fasse un métier ou qu'il en fasse. Enfin voilà, c'est l'endroit où il se sauve, le gars.
Et c'est l'un des tournants de ce film qui se passe entre Boulogne et Tunis. Mais si, tout à fait, bien sûr, évidemment. Il est 17h47 au péage de Savigny-sur-Orge, sur la 6, et on pense très très fort à vous.
On y est allé. Enfin, moi, j'ai déjà été coincé à Savigny-sur-Orge.
Ah,
c'est le bouchon pérenne. Vous n'êtes pas dans les embouteillages, vous êtes les embouteillages. Moi, c'est un truc qu'on m'a dit une fois, et du coup, ça permet de le vivre plus sereinement.
Oui.
Vous n'êtes pas dans les embouteillages.
Mais on vous tient la main. On vous tient la main, on est là. Et Juliette Arnaud aussi est là pour vous faire un conseil.
Mais je vous tiens tellement la main. Tellement. Alors, les spectateurs de Striptease se souviennent particulièrement d'un épisode qui s'appelait La soucoupe et le perroquet en 1999, dans lequel un type, en race campagne charentaise, Jean-Claude Ladra, avait fabriqué une soucoupe volante. Et en attendant de quitter cette terre de misère pour rejoindre les étoiles, il vivait sur la terre charentaise avec sa mère Suzanne. Était-il simple? Était-il zinzin? Était-il représentatif d'un lumpen prolétariat paysan? J'imagine que ça, c'est une affaire de sensibilité. En tout cas, à l'arrivée, c'était un mélange de rire et de malaise. Une séquence culte d'une émission culte bien. Sauf que Jean-Claude Ladra n'est pas 15 minutes d'une émission de télé. Même culte. Et de toute façon, résumer, c'est un truc ambivalent. Parfois, ça peut être drôle de résumer les choses. Quand t'es Monty Python et que tu organises le concours du meilleur résumé de la recherche du temps perdu, 7 volumes de littérature raffinée, 4215 pages en 15 secondes. Souvent, résumer les choses, c'est juste dangereux parce que vite, on peut, par exemple, en arriver à résumer Nana de Zola par « c'est histoire d'une pute ».
C'est pas faux.
Non, mais c'est réducteur.
C'est réducteur.
C'est également stupide, c'est violent et dans ce cas, c'est misogyne en plus. C'est Jean-Charles faux. Chapuzet, l'auteur du livre dont je vous parle aujourd'hui, il est journaliste et écrivain et il est originaire lui aussi des Charentes. Et lui, il était jeune homme dans les années 90, celle du moment de la gloire, de Jean-Claude Ladra. Et il s'emploie avec ce livre, Mauvais plan sur la comète, à transformer le court-métrage en long-métrage. Alors, une bio en accéléré de Jean-Claude Ladra, le monsieur zinzin, enfin peut-être, une enfance pas folichonne dans une famille pas super unie et tendre, une réussite scolaire à l'avenant, là évidemment j'use un dessin d'euphémisme, et puis Jean-Claude se barre grâce à Marine Marchande. Alors là il a une révélation à triple titre, d'abord un, il découvre le monde par la mer, deux, il découvre le triangle des Bermudes où il vit une expérience mystique avec un brouillard magnétique, 3, il bouffe des tonnes de bouquins de science-fiction, lui qui a jamais lu de sa vie, et il en garde un vocabulaire ésotérique qui réjouira les futurs spectateurs de Striptease. Lorsqu'il retrouve la terre ferme, Jean-Claude, il mixe sans complexe ses amours xénophiles, j'en suis tellement contente de cette allitération en X, mais tellement consciente, et ça donne qu'il construit une soucoupe flottante. Qu'avant il y en a eu une première et elle était flottante, pour rejoindre les Bermudes afin de retrouver une voie infraterrestre venue de la civilisation Atlante. Oui, je sais, vous pensez n'importe quoi à lui.
Ambition.
Sauf que Tom Cruise croit à des trucs un million de fois plus brin de zinc, hein, bisous la scientologie, et ça nous a jamais empêché de nous prosterner humblement devant Eyes Wide Shut. Et puis, avec sa soucoupe flottante dans les années 80, Jean-Claude Ladra, il va vraiment passer 3 mois en mer au large du Sénégal. Clairement, il va plus écoper et perdre des dizaines de kilos que dialoguer avec une âme venue d'ailleurs. Mais c'est quand même insensé cette affaire, parce que cosmonaute autodidacte, c'est insensé. C'est du même ordre que chirurgien autodidacte. En moins flippant. Certes, mais un jour, Jean-Claude écrira « Pour moi, deux choses valent de risquer sa vie, l'amour et la soucoupe. » Cette phrase, moi ça me fait pas rire.
Moi aussi.
Cette phrase, il l'écrit de prison. Parce que dans la vie de Jean-Claude Ladra, il n'y a pas que des choses rigolotes, il y a des choses compliquées. Et il a passé plusieurs années en prison. L'auteur, Jean-Charles Chapuzet, il cale pas devant ce truc de la prison. Il note même, c'est plus fort que lui, à un moment donné, lorsqu'il se regarde dans le miroir, l'enquêteur aperçoit la personne sur laquelle il travaille. Alors Jean-Charles, il ne juge pas Jean-Claude, il enquête, il écoute, il relate, il cherche des liens, il entend des résonances en lui, il fait un récit vivant, mélancolique, attentif. Chaque lecteur se fera son avis sur Jean-Claude, simple, cinglé, et si cinglé, doux ou nuisible, ou les deux. Et si c'est les deux, on fait comment pour juger nous autres? Moi, en tout cas, je soupçonne que Jean-Claude Ladra pourra se dire, au soir de sa vie, comme le perdicant de Musset, et je nous le souhaite à tous, c'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnault, donnez-nous les références de l'ouvrage, s'il vous
plaît. Alors, ça s'appelle « Mauvais plan sur la comète », c'est signé Jean-Charles Chapuzet, et c'est là, dans la très jolie maison d'édition Marchiali.
Merci Juliette, 17h52 au péage de Fleury-en-Bière. Tenez bon, nous sommes là. Philippe Rebaud est là aussi.
Ouais, j'ai été au péage de Fleury-en-Bière aussi. Bah voilà, je suis solidaire. Je sais ce que c'est. Le mec a fait tous les péages en... tous les embouteillages du monde, je les ai
fait. Voilà. Vous étiez l'embouteillage.
J'ai été l'embouteillage plus d'une fois.
Et procrastiner, est-ce que vous faites? C'est-à-dire repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui et trouver des tas de petites choses périphériques à faire au lieu de se concentrer sur ce qu'il est urgent de faire. Il paraît que ça a du bon. Ça permet de mûrir les choses. Procrastinons. Putain, c'est dur.
Aujourd'hui, peut-être... Ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme, je la couperai. Et après-demain, et si je peux pas la couper moi-même.
Qui a trouvé ce son?
Ferdinand Sardou, c'est vous?
C'est moi, évidemment. Culture musicale de
aujourd'hui,
ouf.
Peut-être.
Le papa de Michel
Sardou. Et c'est un article sur la procrastination paru dans l'hebdomadaire qui est tout nouveau, qui s'appelle Vraiment, et dans lequel il y a un portrait de vous, Philippe Rebaud, d'ailleurs. Les artistes, les comédiens, ils sont plus concernés que les autres par la procrastination.
Ouh là là, alors ça, j'en sais rien.
Vous êtes un procrastinateur.
Ah oui, moi je suis carrément un des spécialistes. J'aurais pu écrire un bouquin là-dessus. Moi, je dois rendre une disserte que je devais rendre en 78, que je ne cesse de repousser. C'est pour vous dire que je suis à un sommet. J'ai tout fait beaucoup plus tard. Enfin, j'ai eu des enfants tard, j'ai bossé tard. Enfin voilà, je gagne de l'argent tard. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce sujet? Alors, j'avais lu un bouquin là-dessus en disant « c'est l'ultime résistance hein. ». C'est un truc hyper subversif, la procrastination. C'est-à-dire, vous dites « ouais, ok, votre patron vous dit, il faudra que tu me rendes ton truc demain. » Mais comme vous repoussez, en fait, vous résistez, mais sans le dire.
Mais quand
et
c'est
moi,
choisi,
ça me plaît bien, j'ai l'impression que je suis vraiment un résistant.
Quand
quoi,
c'est philosophique, c'est un choix. Mais il y a des gens pour qui c'est vraiment un truc qui fait que ça les coince dans leur vie.
Procrastinateur, je pense que c'est du Cumulard. Même... mais je pense que c'est du même...
Il paraît que ça permet de faire mûrir les choses, donc tout n'est pas perdu.
Ouais, enfin, ça mûrit longtemps. Parce que la disserte, j'ai pas fini.
Le texte, vous l'apprenez à la dernière minute aussi?
Ouais, parce que sinon j'ai peur, moi.
Au
si je l'apprends trop tôt, non, quand même pas, parce que je l'ai payé cher, c'est un peu au maquillage. Non, j'essaie de l'apprendre un peu le soir, un peu le matin, mais si je commence à l'apprendre, je commence à flipper. Si je commence à flipper, j'arrive pas à apprendre. Donc,
alors, le texte.
Enfin, j'ai pas encore résolu.
Il suffit de le lire ici, Philippe Rebaud.
Voilà, le sketch de fin d'émission, peut-être que vous connaissez. Un rôle qui va vous plaire, le rôle de Gérald Darmanin, parce qu'il est en visite en Italie.
Ok,
vous en avez
sur la présence. Problème d'âge, hein. Sinon, je pense qu'à lui, mais on a juste un problème de...
Les douaniers français qui étaient sur le sol italien, il y a eu un problème, il faut qu'il aille s'expliquer. Évidemment, on lui a donné un petit rendez-vous avec Silvio Berlusconi et toute son équipe, et Guillaume Meurice.
Moi, je suis G, alors.
Vous, c'est P, évidemment.
Ah, c'est P,
Philippe.
Ouais. Pardon, je croyais que c'était G comme Gérald. Hein.
Ah oui, ça c'est tout.
Ah, commandatore Berlusconi, le français, il est arrivé là.
Ma che bello, le petit Macron, il est là.
Non, pas Macron, non, c'est
ma
pas...
Ma come stai, pas Macron? Non. Vous avez envoyé le premier ministre, Eduardo Filippo.
Allora, non plus, non,
ma
non.
Un ministre important, Jean-Yves Le Drian.
Non plus, non, c'est Gérald Darmanin.
Ma che cazzo fa Gérald Darmanin, un puceau?
Non, pas vraiment un puceau, non.
Monsieur, bonjour, je représente la France.
Ah ouais, c'est la crise.
Monsieur Darmanin, je vous présente Silvio.
Oh, monsieur Berlusconi, j'adore ce que vous faites.
Moi aussi, j'aime bien ce que j'ai fait.
Vraiment, je suis un de vos plus grands fans.
Tu aimes les disques que j'ai chantés, la musique?
Non, j'aime plutôt votre façon de vivre la politique, de vivre l'argent, de vivre les femmes.
De vivre, tout simplement.
Silvio, tu viens?
C'est qui?
Moi, c'est ma petite fille qui fait les devoirs dans la chambre.
Vous voulez que je m'en occupe?
Non, ça va, je délègue pas ça. Oh, okay.
Mais moi, quand les autres à Sciences Po avaient des posters de Kennedy ou de Gaulle, moi, c'était vous au-dessus de mon lit.
Ma, que c'est gentil, Gérald.
Même Sarkozy à côté de vous, c'est un asset.
Oh, tu exagères.
Et vous êtes beau aussi, commandantore.
C'est vrai, bon. On voit même pas les coutures. Vous êtes magnifique, Silvio. Et bronzé.
Ah, mais ça, je vais à Punto Sole. C'est les points soleil de Rome.
Silvio, mon lapinot, tu viens? Je suis toute nue sous la couette. chouette.
Dis donc, pour des devoirs, c'est une drôle de tenue.
Ouais, mais c'est les cours de l'anatomie. Comme je suis gynécologue amateur aussi, je l'aide la petite. Et...
Ah bon, et comment elle s'appelle?
Comment elle s'appelle? C'est une bonne question. Guillermo, comment elle s'appelle la petite?
Elle s'appelle Saphir.
Ah, mais si, après Ruby, je fais Saphir. Voilà, c'est comme ça.
Donc, moi, pardon, mais j'étais venu pour parler de l'affaire des douaniers.
Ah, Gérald, c'est ok. Sinon, toi, avec les filles.
Avec les filles, Gérald.
T'en es où?
Bon, bah, depuis que je suis ministre, ça va mieux. Hein. Ah bah... je dois même plus leur donner un logement après une virée en club échangiste.
Bah, il est bien, ce petit Gérald. Gérald, tout le fils que je n'ai jamais eu.
Je peux vous appeler papa?
Non, ça, c'est que pour les filles.
Si tu ne viens pas tout de suite, je me termine toute seule. Hein.
Si vous voulez, moi, je ne suis pas mauvais en anatomie. Je peux donner un coup de main.
Oh, Gérald, tu vas garder les mains où tu les veux. Si tu veux vraiment utiliser les mains, tu vas sticker les douaniers.
Ah, vous l'avez énervé, là.
Si,
pardon, je ne voulais pas.
Et voilà.
Trop tard.
Et voilà, il est comme Gérald. C'est lundi Pâques.
Les gens sont dans les embouteillages, ils sont stressés, ça passe droit à train. Voilà.
Sur le service public.
Merci Philippe Rebaud.
Bah, merci à vous, hein. C'était trop court. Elle dure plus longtemps quand je l'écoute, c'est bizarre. C'est vrai. Il va y avoir des moments chiants quand je l'écoute, alors que là je me suis emmerdé une seconde. Mais je fais ça en m'endormant, figurez-vous. Ouais, c'est la vérité.
Philippe Rebaud à l'affiche du film Vent du Nord de Walid Matar, qui est actuellement dans les salles avec Corinne Maziero, Kessie Motéklin, Mohamed Hamid Hamzaoui, oui, Abir Benani et Khaled Brahmi, et on vous le conseille chaudement. Ouais, merci à toute l'équipe. Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, Kevin Pelot à la technique, Sarah Masson, Marion Lelay, Alexia Lacour, assisté de Mathias Volant qui nous aide pour le bar, ainsi que Antoine Astet pour les blagounettes. On se retrouve demain avec Jérôme Commandeur et voici le mot de la fin.
Votre attention, s'il vous plaît. Le TER Centre est supprimé. Merci de votre compréhension.